Bonjour,
vous écoutez le podcast de l'APM et aujourd'hui nous recevons Nicolas Bouzou et ensemble on va discuter croissance et progrès. Nicolas Bouzou est un économiste et essayiste, il est directeur du cabinet de conseil Asterès et cofondateur du Cercle de Belém. Il est aussi directeur d'études au sein du MBA Law and Management de l'université Panthéon-Assas. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et un contributeur actif au débat économique français et européen. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Comment on devient un expert en économie ?
Bah en fait, moi, ça s'est fait un peu, je dirais, de façon contingente. C'est-à-dire que ce qui m'a toujours intéressé, c'est de découvrir le monde, de comprendre le monde et d'essayer de l'améliorer. Donc, on va dire que ça, c'est ce qu'on appelle pompeusement l'intuition fondamentale. Donc, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis adolescent, en réalité. Et après le bac, je cherchais une discipline qui me permettent de faire ça, d'en faire mon métier. Alors, je pense que j'aurais pu faire de l'histoire, j'aurais pu faire de la philosophie, j'aurais même pu faire des sciences, d'ailleurs. Je me suis dirigé vers l'économie parce qu'il me semblait que c'était une plateforme importante pour comprendre le monde. Et de ce point de vue-là, je ne me suis pas trompé. Mais l'économie a toujours été pour moi vraiment une plateforme, c'est-à-dire un point de départ. Je ne me suis jamais limité à l'économie et dans mes ouvrages, notamment, j'intègre beaucoup d'histoire, de philosophie, de technologie, de plus en plus, parce que je considère qu'au fond, dans une période de mutation comme aujourd'hui, on a besoin d'avoir la vision la plus systémique, la plus large possible. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qui est dans la tradition, alors à la fois dans la tradition du débat public français, qui est une tradition très, très particulière, qu'on ne retrouve pas dans les pays anglo-saxons, mais avec cette figure, alors le terme, et on pourrait discuter du terme pendant des heures, mais c'est la figure de l'intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse, on va dire, aux questions sociales, sociétales, en règle générale. Et puis, bah, cette vision large chez les économistes, alors non pas seulement en France, mais partout dans le monde, et là, pour le coup, y compris dans les pays anglo-saxons, l'économiste du 18e et du 19e siècle, c'était quelqu'un qui partait de l'économie, mais qui intégrait beaucoup d'autres savoirs. Si vous lisez Adam Smith ou Karl Marx ou Schumpeter, qui est l'un des grands économistes dont je me réclame, enfin Adam Smith et Marx aussi d'ailleurs, d'une certaine façon, mais chez Schumpeter, vous avez de la sociologie, vous avez de l'histoire, vous avez énormément de choses. Ouais.
Alors, dans nos pays développés, hein, le climat est globalement, en ce moment en tout cas, au pessimisme. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'avenir, Nicolas ?
Je pense que la peur est un réflexe qui est absolument compréhensible. On a toujours une partie de notre cerveau qui a peur. Mais justement, il faut essayer de lutter contre la peur. C'est-à-dire que la peur en soi n'est pas forcément problématique. Ce qui est problématique, c'est si la peur gagne sur la rationalité. Et ce que je dis là, d'ailleurs, on le vit tous à titre individuel. C'est-à-dire qu'il nous arrive dans certaines circonstances d'avoir peur et on sait qu'il faut combattre cette peur, qu'il ne faut pas l'accepter. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à nos enfants. Quand vous avez un enfant qui vous dit « j'ai peur du noir », évidemment, vous ne lui dites pas « ah bah oui, mais évidemment, tu as peur du noir parce que c'est dangereux, donc continue d'avoir peur du noir ». Non, vous lui dites « tu as peur du noir, mais on va t'habituer au noir peu à peu et puis tu vas découvrir que ce n'est pas dangereux, etc. » Il y a des gens qui ont peur en avion, par exemple, c'est exactement la même chose. On peut avoir peur en avion, mais il faut combattre sa peur de l'avion. Bon, aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, une grande partie de l'opinion publique en France, 80%, hein, nous on a fait un sondage Asterès, on a fait un sondage avec IFOP là-dessus, qui voit l'avenir comme une menace. L'intelligence artificielle, les biotechnologies, les populismes, l'immigration, voilà, tout est vu, la nourriture, enfin tout est vu, même les médicaments, les vaccins ou les médicaments peuvent être vus comme une menace. Ce qui nous soigne peut être considéré comme une menace, le réchauffement climatique, j'en parle pas. Bon. Donc, vous avez tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, on évolue dans un climat qui est un climat de pessimisme, de peur et de défiance concernant l'avenir. Mais justement, la façon dont je vois mon rôle, c'est d'essayer d'éloigner les peurs et de faire revenir de la rationalité pour dire, au fond, bien sûr qu'il y a des menaces, bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr qu'il y a le réchauffement climatique, le terrorisme islamiste, etc. Bien sûr, les populismes, je vois très bien ça. Mais en même temps, il faut bien avoir en tête qu'on dispose d'un savoir et de capacités technologiques qui nous permettent de résoudre ces problèmes. Les questions du réchauffement climatique, je dis souvent, on sous-estime encore le problème, mais on sous-estime aussi notre capacité à le régler. Donc moi, je me situe du côté des solutions.
À ce sujet, sur le sujet du réchauffement climatique, toi, tu défends l'idée que le problème du réchauffement climatique ne se résoudra pas avec la décroissance. Non, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les solutions que tu proposes? Où se trouvent les solutions?
Déjà, il n'y aura pas de... Alors, la décroissance pose deux problèmes. D'une part, je ne suis pas sûr que la décroissance soit possible. Je suis même quasiment convaincu que ce n'est pas possible. La décroissance, si vous faites 2% de baisse du PIB par an, ça veut dire que les gens, les classes moyennes, a fortiori les gens les plus vulnérables, qui sont dans les situations par définition les plus fragiles, vont connaître sur, on va dire, 15 ans des baisses de revenus de 25-30%. Ben, vous irez leur expliquer, vous irez leur vendre. Moi, j'ai déjà débattu beaucoup, les gilets jaunes, etc. J'ai donné, mais il faut être capable de... Donc, évidemment, c'est absurde. On ne peut pas demander ça aux gens. Et d'autre part, je ne suis pas du tout sûr que la décroissance permette de lutter contre le réchauffement climatique. Parce que si vous avez moins de ressources, peut-être vous polluez moins, mais en même temps, vous avez aussi moins de ressources pour dépolluer ou pour investir dans des technologies qui vont permettre de lutter justement contre les dérèglements climatiques. Donc, ce n'est pas ça. La seule question, le seul sujet de réflexion, c'est qu'est-ce qui provoque le réchauffement climatique et comment on fait pour faire de la transition énergétique. Et donc, je schématise vraiment à outrance, mais aujourd'hui, le réchauffement climatique, donc c'est évidemment une question d'émissions de carbone. Et les émissions de carbone, elles viennent... en un, de la production d'électricité, et en deux, des transports au niveau mondial. Donc, la question, c'est comment on fait de l'énergie décarbonée, en particulier de l'électricité décarbonée, et comment on fait passer notre parc de transport du fossile vers l'électricité décarbonée. Voilà, c'est ça le sujet. Et donc, vous voyez que le sujet devient un sujet scientifique. Ce n'est pas un sujet de décroissance, d'opinion, de machin, de trucs, de riches qui polluent. C'est pas ça. C'est vraiment une question scientifique. Et alors là, on aborde des sujets qui sont très intéressants. Comment on fait monter le rendement des énergies renouvelables, comment on lutte contre l'intermittence, la question des batteries, le nucléaire, auquel je suis favorable, comment est-ce qu'on gère les déchets, comment est-ce qu'on les gère mieux, comment est-ce qu'on continue d'investir dans ce qu'on appelle la fusion atomique, qui est sans doute la prochaine source d'énergie après le nucléaire. Voilà, ce sont toutes ces... Alors, si on s'intéresse aussi à la question des ressources, comment est-ce qu'on met en place des filières d'économie circulaire? Moi, c'est un sujet qui me passionne, sur lequel je travaille beaucoup. Bon, mais vous voyez que ce sont des sujets qui demandent beaucoup de compétences.
Ouais. On voit aussi que tu portes une version optimiste, une vision optimiste en tout cas de ce que tu appelles une troisième révolution industrielle dans laquelle on serait actuellement. Et tu dis qu'elle est pleine de promesses et de résultats. Est-ce que, alors on l'entend, est-ce que tu peux développer sur ce sujet?
Alors, juste un point de terminologie, parce qu'on me dit souvent que je suis optimiste, je n'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas. En tout cas, je récuse l'idée de l'optimisme et l'idée du pessimisme aussi. J'essaie d'être lucide. C'est-à-dire que si je pense que cette troisième révolution industrielle peut être un progrès pour l'humanité, c'est pas parce que je suis optimiste, pas du tout. C'est parce que je pense vraiment que c'est le cas, parce que c'est le résultat d'une analyse. Quand on regarde l'histoire de l'humanité sur le très long terme, allez, on va dire depuis même... la domestication du feu, disons, la plupart des vagues d'innovation ont finalement abouti à des progrès. Alors, pas forcément sur le moment. Par exemple, le passage de l'ère paléolithique à l'ère néolithique, donc l'invention de l'agriculture, n'a pas été tout de suite un progrès. Ça a mis des milliers d'années avant de devenir un progrès. Enfin bon, fondamentalement, on voit bien que les humains sont quand même assez forts pour utiliser les technologies à bon escient. De toute façon, la technologie, elle est neutre. J'ai parlé du nucléaire avec l'atome. Vous pouvez aussi faire des bombes atomiques. Ça a été la première utilisation du nucléaire, donc atroce. Vous pouvez soigner des cancers aussi, ce qu'on appelle la radiothérapie. Donc la technologie, elle est neutre, donc tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et il est clair que les technologies du numérique, de la robotique, de l'intelligence artificielle, les biotechnologies peuvent permettre de faire des choses absolument merveilleuses. Moi, je travaille beaucoup dans le domaine de la santé. Il y a une révolution aujourd'hui dans la santé. Je parlais du cancer. Il y a aujourd'hui une révolution thérapeutique dans le domaine du cancer qui est liée à la troisième révolution industrielle. Donc ça, c'est extraordinaire, évidemment.
Est-ce que l'innovation, elle porte forcément en elle une part de destruction? Est-ce que ça fait partie du schéma?
Oui, c'est évidemment une excellente question. Oui, alors je citais tout à l'heure Schumpeter, c'est le premier penseurs à avoir très bien montré ça. C'est-à-dire que l'innovation est un phénomène de destruction créatrice. Quand on crée quelque chose de nouveau, du même geste, on détruit quelque chose d'ancien, sans forcément s'en rendre compte, mais tout simplement parce qu'on dévalorise un vieux capital. Alors, les exemples sont absolument légion. Je pourrais vous en citer mille, mais regardez par exemple la façon dont France Télévisions s'énerve contre Netflix. Un exemple, mais qui est typiquement dans l'actualité, parce que l'émergence du streaming dévalorise au fond ce qu'on appelle la télévision linéaire. Et donc tout ça, je veux dire, il faut pas le nier, c'est un vrai problème. Et de la même façon que si on investit davantage dans les énergies décarbonées, dans l'électricité décarbonée, je peux vous dire que ça va poser, alors ça va faire à la fois des opportunités économiques extraordinaires, mais ça va poser aussi des problèmes économiques extraordinaires, parce que vous avez des tas de gens dans le monde qui travaillent dans des mines de charbon ou qui font de l'extraction gazière. Vous en avez plein, y compris dans de très grandes économies comme les États-Unis. Donc oui, l'innovation est toujours un processus de destruction créatrice. Ça veut dire qu'il faut toujours, il faut libérer l'innovation parce qu'on en a besoin, mais il faut que la société trouve les moyens de prendre en charge les perdants de la destruction créatrice. Et ça, c'est l'un des sujets les plus urgents pour nos sociétés développées. L'agenda politique des pays développés, ça doit être comment est-ce qu'on libère l'innovation et comment est-ce qu'on prend en charge en même temps les perdants de l'innovation. On va avoir des voitures sans chauffeur, on va avoir des poids lourds sans chauffeur. Comment est-ce qu'on va gérer le fait qu'aujourd'hui, les entreprises de transport routier, elles recrutent beaucoup de chauffeurs et que ces gens-là, c'est notre devoir collectif de nous en occuper.
Ouais, justement, alors en 2017, tu as écrit un essai qui était intitulé « Le travail et l'avenir de l'homme ». On est en plein dans cette thématique et dans lequel toi, t'opposes formellement à la thèse, en tout cas, du chômage technologique. Hein, c'est ce dont on parle. Est-ce que toi, tu continues à penser aujourd'hui que le progrès technique crée des emplois ?
Alors, plus exactement, le chômage technologique existe, mais il existe à court terme. Autrement dit, on peut le traiter. Je reprends l'exemple des camions sans chauffeur. Je ne sais pas quand les camions autonomes vont arriver sur les routes européennes. On en voit un peu aux États-Unis, mais en tout cas, il est clair que ça mettra des gens au chômage, bien évidemment. Simplement, ce que je dis et ce que montre la théorie et l'analyse économique, c'est que ces gens qui vont être pénalisés par ces évolutions, c'est un capital humain qui peut trouver du travail dans d'autres types de secteurs. Parce qu'à chaque fois que vous avez un progrès technologique, vous avez une destruction, on l'a dit, mais vous avez une création qui potentiellement est infinie. Et on le voit bien sur le long terme. C'est-à-dire que des progrès technologiques, il y en a toujours eu. Et l'emploi, grosso modo, a toujours augmenté sur le long terme. Il y a beaucoup plus d'emplois aujourd'hui qu'au début de la révolution industrielle dans le dernier quart du 18e siècle. Les gains de productivité dans l'agriculture ont détruit énormément d'emplois agricoles à partir de la fin du 19e siècle. Et dans le même temps, on a recréé énormément d'emplois dans les services, dans la justice, dans l'éducation, dans les services aux entreprises, les services aux personnes, etc. Donc, c'est ça le sujet de la destruction créatrice. Donc oui, bien évidemment, je confirme ce que je dis dans le travail et l'avenir de l'homme. Et finalement, peut-être même que j'étais encore trop pessimiste. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque, évidemment, il y avait ce débat et on me disait aujourd'hui, on ne peut pas comparer le 21e siècle et le passé parce que les évolutions technologiques sont plus fortes et plus rapides, ce que je ne remets pas en cause. D'ailleurs, je suis plutôt d'accord avec ça. En même temps, ce qu'on voit aujourd'hui, très clairement, c'est que les pays qui investissent le plus dans ces technologies de la troisième révolution industrielle, on le voit bien dans l'industrie, hein, les pays où on est vraiment passé à l'industrie 4.0, c'est-à-dire avec des robots, de l'intelligence artificielle, du numérique, évidemment, de la fabrication additive, de ce qu'on appelle les imprimantes 3D, on voit que ce sont ceux dans lesquels l'industrie crée le plus d'emplois. Et aujourd'hui, la norme dans les pays développés, c'est plutôt le plein emploi, la France étant une exception à cet égard. Donc le sujet aujourd'hui, c'est pas tant est-ce que le progrès technique détruit, enfin fait du chômage technologique net, c'est-à-dire détruit plus d'emplois qu'il n'en crée, ça je crois que c'est déjà affirmé par les faits, c'est plutôt quel type d'emplois sont créés, est-ce que ce sont des emplois de bonne qualité, et comment on met en face de ces emplois un droit du travail et une protection sociale adaptée. Ça, c'est très intéressant parce qu'on est typiquement là-dedans en ce moment en France avec la question de la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec la réforme des retraites ? Alors, plus ou moins adroitement, mais moi, comme vous savez, j'ai plutôt soutenu le principe de cette réforme, même s'il y aurait mille critiques à faire, je ne rentre pas dans les détails, mais ce que je trouve sain en tout cas, enfin, c'est de dire on va essayer de protéger des gens qui n'étaient pas protégés jusque-là parce qu'ils travaillent dans des plateformes, parce qu'ils sont intermittents, parce qu'aussi ils changent de statut, etc., tout au long de leur carrière. Ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'il faut qu'on mette en face de ces nouvelles formes de travail et d'emploi à des protections, un État-providence du 21e siècle.
Ouais, mais alors qui dit État-providence dit croissance économique. Est-ce que toi, tu penses que la croissance économique, elle est encore possible sur la décennie 2020-2030 ?
Bien sûr, il y a de la croissance aujourd'hui, sauf que c'est pas la même. C'est une croissance d'une nature qui est un peu différente. C'est pas la croissance fordiste qu'on a connue au 20e siècle, qui était une croissance de standardisation et d'accumulation, c'est-à-dire au fond où on vendait des biens et des services qui étaient à peu près les mêmes pour tout le monde. Et où du côté de la consommation, les ménages accumulaient en permanence ou renouvelaient très rapidement leurs équipements. On voit qu'on va vers quelque chose qui est sans doute plus qualitatif. Je prends un exemple basique. En basique, on aura toujours besoin de lave-linge. Ça n'a pas changé, mais on va consommer, il le faut en tout cas, des lave-linges qui consomment moins d'électricité, moins d'eau et qui ont une durée de vie plus longue, quitte à ce qu'ils soient un petit peu plus chers d'ailleurs. Donc oui, bien évidemment, la croissance est tout à fait possible, elle est tout à fait souhaitable et elle est de toute façon, c'est une question presque philosophique autant qu'économique. C'est-à-dire que l'humain a toujours voulu améliorer sa situation, toujours. Et donc, la croissance est consubstantielle à l'humanité. C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait opposé aux thèses de la décroissance. La domestication du feu, dont je parlais il y a quelques instants, ça traduit une volonté de croissance. L'invention de l'agriculture, c'est une volonté de croissance. Le fait de faire des outils, de fabriquer des outils, c'est une volonté de croissance. Les tout débuts de la médecine rationaliste au siècle de Périclès, sous l'Antiquité grecque, c'est une volonté de croissance. Donc la question, ce n'est pas la croissance en tant que telle, c'est plutôt quel type de croissance. Et puis, comment est-ce que, surtout, on fait du découplage, ce qu'on appelle le découplage aujourd'hui, c'est-à-dire en même temps de la croissance et une baisse des émissions de carbone.
Tu as écrit un livre avec Julia de Funès qui s'appelle « La comédie inhumaine » et tu y expliques que selon toi, les gisements de croissance se trouvent en grande partie dans la reconfiguration du management. Comment est-ce qu'il faut reconfigurer aujourd'hui le management ?
Oui, il y a les économistes dans le monde entier s'interrogent beaucoup sur la faiblesse des gains de productivité dans les pays développés. On voit qu'il y a beaucoup d'innovations, donc j'en parlais, l'IA, le numérique, les robots, etc. Et il n'y a pas beaucoup de gains de productivité. Il y en a un tout petit peu aux États-Unis maintenant, mais en tout cas, c'est très décevant par rapport à ce qu'on pourrait attendre de ces innovations. Et je pense que l'une des clés pour résoudre cette énigme, c'est de regarder en effet, le management dans les entreprises. C'est-à-dire qu'au fond, on a quand même un management qui est fait de telle sorte que les salariés et la technologie sont un peu en doublon. On fait faire à des salariés, on les rive dans des process, dans des reporting, dans des trucs qui, au fond, sont pas forcément utiles, sont pas très créateurs de valeur pour l'entreprise, qui bien souvent sont automatisables. Alors que l'avenir du salarié, c'est d'être beaucoup plus autonome, c'est de savoir ce qu'il a à faire, d'avoir une mission. C'est très important. Donc, il y a une verticalité dans une entreprise. Les théories de l'entreprise libérée, tout ça, l'horizontalité, c'est bullshit. Ça ne peut pas marcher, ça ne marchera jamais. Et ça n'a jamais marché. Donc, il faut une verticalité, sinon la vie serait simple. Elle serait facile, mais il faut néanmoins laisser de l'autonomie. C'est ça qui est complexe, il faut laisser de l'autonomie. Donc, il faut une mission, il faut que les salariés aient une mission, mais il faut leur laisser beaucoup, beaucoup plus de marge de manœuvre quant aux outils qu'ils utilisent pour remplir cette mission. Sinon, ce n'est pas la peine de prendre des humains. Il faut prendre une intelligence artificielle et des robots. Et ce que je dis là sera de plus en plus vrai ces prochaines années, tant que l'intelligence artificielle va faire des progrès. Mais même si l'intelligence artificielle fait des progrès, même si elle devient forte, il faudra toujours réfléchir à cette complémentarité. Vous avez sans doute vu, comme beaucoup, le dernier épisode de Star Wars. les droïdes de Star Wars, c'est de l'intelligence artificielle forte, mais néanmoins, ça reste des droïdes. C'est-à-dire qu'on voit que Z6PO, il est super, mais il ne sait pas quand même tout faire. Enfin, je ne veux pas spoiler le film, mais il y a des moments où il faut quand même une intervention dessus, ce qui n'est pas le cas des humains, qui, eux, sont des généralistes. Et d'ailleurs, au sein de l'APM, j'explique ça dans le détail, il faut sans doute qu'on permette à nos collaborateurs d'être, alors à la fois de connaître un métier, donc ça, évidemment, il faut avoir un métier, il faut être un spécialiste, mais il faut être en même temps généraliste. Voilà, il faut être les deux aujourd'hui. Il faut être spécialiste et il faut être généraliste. Et ça passe par un management qui est fondé sur trois piliers, hein, qui sont le sens, l'autonomie et l'autorité, mais l'autorité au bon sens du terme, au sens de l'étymologie d'autorité, aoguerre, c'est-à-dire élever les gens. Pas les emmerder, ça c'est l'autoritarisme, mais les élever. Et pour un manager, être une ressource. Pas être un emmerdeur, être une ressource. Et c'est très difficile et ça demande d'être un bon manager.
Nicolas, merci beaucoup pour cet échange.
Merci à vous, c'est moi qui vous remercie.
Comme tu le sais, l'ambition de l'APM, eh bien, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Pardon. Alors, on a parlé de beaucoup de sujets aujourd'hui. Si on devait retenir juste un mot qu'on conseille aux entrepreneurs qui nous écoutent, lequel ce serait ?
Bah, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je dirais que c'est le mot confiance et je renvoie là plutôt à ce que fait Charles Pépin, qui est très, je trouve, pertinent et même profond sur le sujet. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance, mais la confiance, ce n'est pas bêtement l'optimisme, comme je le disais tout à l'heure. La confiance, il y a trois choses, c'est la confiance en soi, la confiance dans les autres et la confiance dans l'avenir, c'est-à-dire la confiance dans notre capacité à faire un avenir qui sera mieux que le présent et mieux que le passé. Et il faut avoir ce type de confiance si on est entrepreneur. Sinon, il faut faire autre chose.
Nicolas, merci beaucoup.
Merci.